La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre à 8h45 avec Routel Krief, éditorialiste LCI, et Marc Lambron que vous retrouvez chaque matin à 7h20 pour Et si on parlait français. Bonjour à tous les deux, merci
d'être là. Bonjour David, bonjour Marc.
Bonjour. J'aimerais, et je pense que c'est aussi votre souhait, Route, qu'on revienne sur ce problème entre certaines villes de province et Paris. Ville de province qui réceptionne SDF et migrants. Le maire d'Orléans a dénoncé lundi l'expédition vers sa ville et depuis un an de quart de SDF et de migrants. Voilà ce qu'il a dit pour interpeller Gérald Darmanin. Depuis mai 2023, toutes les trois semaines, il y a un quart qui est affrété de Paris qui embarque des personnes migrantes en situation irrégulière et sans domicile fixe pour les amener à Orléans, pour ne citer que cette ville. Tout cela se fait en catimini et c'est particulièrement choquant. Il poursuit, Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du crack. On ne peut pas se débarrasser des problèmes sur nous en disant que c'est difficile à Paris, débrouillez-vous. Et il estime que cela représente au total 500 personnes depuis 2023. Serge Grouard, donc le maire d'Orléans, explique cependant ne pas avoir de certitude sur un lien entre les Jeux Olympiques de Paris et ces quarts de migrants.
Non, mais c'est vrai. L'État et le préfet du Loiret a démenti que ce soit lié aux Jeux Olympiques. Hein. C'est un projet de l'État pour désengorger l'Île-de-France d'un certain nombre de migrants. Et vous savez, sur le papier, le fait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes, et surtout d'hommes, ne vivent plus sous le périphérique dans des situations extrêmement dures et atroces, mais soient abrités dans des lieux propres et corrects, ne me choque pas. Je pense que ça peut les aider peut-être à reconstruire une vie. La question, c'est l'organisation de cela, le fait que les structures d'accueil soient effectivement prêtes, et que, comme le déplore ce maire, qui par ailleurs est un opposant politique au gouvernement, mais ça bon, et en fait, au bout de trois semaines, un mois, ils se retrouvent dans la rue et ça pose le même type de problème dans des villes de province que dans Paris. Donc la question que ça pose, c'est comment on traite les migrants, comment on les accueille, est-ce qu'on doit en accueillir plus et de quelle façon, comment est-ce qu'on essaye d'éviter que ce problème se pose à Paris et ailleurs, et effectivement, essayer de pas faire en sorte que Paris devienne, c'est l'expression qu'on a utilisée hier, une ville Potemkin pour le temps des JO, mais qu'en fait les problèmes soient cachés alors qu'ils doivent être réglés ou en tout cas adressés, comme on dit en anglais.
Il est difficile de les cacher puisque
que c'est. Mais à chaque fois, je fais des bêtises. Hein.
Bon. Il faut. Oh, non. C'est pardonné puisque non, c'est dans le langage parlé, mais je voulais m'arrêter quand même sur le fait que ils dorment. Sous le périphérique, si vous voulez balader à Paris aujourd'hui, dans les quartiers les plus touristiques, dans les quartiers les plus chics et les autres, vous voyez, grosso modo, tous les 300 mètres, quelqu'un dormir sur un pas de porte, sur un matelas de fortune. C'est ça la vérité aujourd'hui des sans-domicile fixe et des migrants à Paris, c'est qu'ils ne se réfugient plus sous les ponts ou aux abords de la périphérie, mais ils sont dans Paris. Marc.
D'abord, j'aimerais que l'on me démontre qu'il ne s'agit pas, en effet, de construire un village Potemkin, c'est-à-dire de nettoyer Paris avant les JO. Il y a des précédents fâcheux, je ne vais pas risquer des comparaisons, mais vous savez que pour les JO de Berlin en 1936, on avait fait disparaître tous les marqueurs antisémites pour ne pas offusquer les autres délégations. Ce qui prouve d'ailleurs que les nazis savaient très bien que c'était blâmable.
Comparaison n'est pas raison, Marc. Attention.
Non, mais à Rio et dans toutes les villes hautes des JO, on fait à peu près la même chose. Hein, et parfois plus brutalement, par exemple à Rio.
Alors maintenant, Orléans. Bon, Serge Grouard, c'est quand même la ville de Jeanne d'Arc. Vous connaissez le devoir de charité chrétien, évangile selon Saint-Luc, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Bon, très bien. Admettons que Serge Grouard ne veut pas s'en tenir aux évangiles. Mais je pense qu'il y a une autre solution politique. C'est que nous avons en France des belles âmes. Et c'est heureux qui s'attachent à la défense des migrants, voire qui proclament leur préférence pour cette figure victimisée de l'étranger face aux nationaux sans cœur. Je veux parler notamment du parti LFI. Il y a 75 parlementaires. Si chacun d'entre eux prenait en charge un migrant, l'hébergeait, veillait à son destin, et c'est un parti qui revendique 355 000 adhérents en ligne. Eh bien, si on met les actes en accord avec les discours, nous aurons une solution solidaire, participative et citoyenne. comme ils disent.
Mais c'est une patate chaude que vous envoyez la patate chaude à Jean-Luc Mélenchon.
Ils n'ont pas beaucoup d'élus locaux, en tout cas.
C'est une suggestion.
Presque pas.
Oui, mais beaucoup d'adeptes et beaucoup de grands cœurs. Et je suis étonné, en effet, qu'il n'y ait pas une sorte de mise en adéquation de la pensée, voire du prêche, et de l'acte, pour rester chrétien.
En tout cas, l'Allemagne de Merkel a peut-être fait un peu mieux que la France en matière d'intégration, d'accueil et de mobilisation par rapport aux migrants, en tout cas dans l'organisation de ceux qui étaient sur place.
Vous avancez là, une supériorité morale des protestants qui peut-être existe, même s'il y a des landers très catholiques.
Vous pensez que c'est culturel? Soyons très sérieux, Marc Lambron. Est-ce que vous pensez que c'est culturel et qu'il y a, dans la façon d'accueillir l'autre, y compris dans les sociétés modernes et pas sur le parvis des cathédrales, uniquement une différence d'approche?
Il y a sûrement une différence d'approche, et je pense qu'il y a en effet un substrat qui pose la question de que faire, quelle attitude avons-nous face aux démunis, face aux pauvres, face à l'errant, face aux migrants, et face à l'autre de façon générale, et que, évidemment, les religions, sur ce point, ont des dogmes ou des prescriptions.
Alors, en Allemagne, quand même, ce qui s'est passé, c'est que l'intégration a été menée de main de maître, parce qu'il y a eu obligation claire d'apprendre l'allemand, il y a eu des emplois qui ont été proposés, parce que à l'époque de la migration organisée par Merkel, l'économie était encore florissante. Aujourd'hui, le problème des migrants en Allemagne est très important. Il n'y a qu'à voir le score de l'AFD, le parti d'extrême droite, qui monte. On le verra aux élections européennes. Donc en fait, il n'y a pas de meilleur modèle aujourd'hui, hélas, et pour les migrants, mais pour les Européens. C'est un problème extrêmement complexe et qui doit être vraiment traité.
La question des SDF est passée au second plan derrière la question du déficit public et des finances publiques, au point que ce soir, Gabriel Attal, en l'absence d'Emmanuel Macron, qui est au Brésil, va devoir faire une mise au point très précise sur la manière dont le gouvernement va se saisir du sujet des économies budgétaires avec un déficit de 5,5%. Il va sans doute annoncer une réforme de l'assurance chômage. Comment peut-on sortir de ce débat augmentation des impôts, réforme de structure? Parce que si on n'augmente pas les impôts, certains vont dire, et peut-être vos amis des LFI, mais pas du tout, Marc Lambron, vos références à LFI vont dire c'est on fait payer aux chômeurs le déficit public français.
Moi, je crois qu'on est à un moment où Macron ne joue plus sa place à l'Élysée, mais sa place dans l'histoire de la Ve République. Et c'est quand même très curieux, ces alarmes moutonnières, soudain sur le déficit. Ça fait des années qu'il y a des Cassandres, qui peuvent être Nicolas Bavrez, qui peuvent être Agnès Verdier-Molinier. Et là, soudain, comme si c'était une urgence, alors que ça fait 40 ans que la question se pose. Bon, les Français sont enclins à penser que l'argent pousse sur les arbres. Et en effet, il y a un problème, ou une aporie. C'est sans issue, parce que, évidemment, accroître les déficits, ce qui est le risque, va dégrader le crédit du pays. Et en perspective, il y a les notations par les agences qui arrivent. Mais si vous parlez de rigueur, ce qu'a fait M. Attal hier, évidemment, vous enflammez tout de suite le parti des dopés de la subvention publique. Je trouve que la situation est difficile et à certains égards insoluble, et qu'il faudra du courage, du sang et des larmes et des calculettes pour arriver à bout.
Voutel-Krieff, vous pensez que la majorité va rester cohérente et qu'elle va suivre les prescriptions de Bruno Le Maire en la matière?
Aujourd'hui, elle est assez déchirée sur cette question. Il y a beaucoup de certains d'entre eux qui sont assez tentés par une hausse d'impôts et qui la proposent de façon assez vigoureuse, dont le Modem, dont Yael Braun-Pivet et dont d'autres. La vérité, c'est que Emmanuel Macron a toujours pensé que c'était la croissance qui allait faire, en réalité, baisser le déficit. Et la croissance, donc l'emploi, et l'emploi, donc des cotisations, donc des revenus pour l'État. C'est un principe qui reste valable. Et donc, les mesures qui vont être annoncées devraient aller toujours dans ce sens, c'est-à-dire permettre la libération de l'activité économique et plus d'emplois. C'est le principe fondamental. Le problème, c'est que là, on est vraiment dans une situation de péril. Oui, ça dure depuis 70 ans, ça fait très longtemps, mais néanmoins, les experts de Bercy, qui avaient fait des prévisions un peu pessimistes pour 2023, ont eu une bonne surprise, et donc ils ont pris leur désir pour des réalités et se retrouvent fort maris comme la cigale et la fourmi aujourd'hui. Et c'est vraiment vraiment un choc, parce qu'on s'est dit, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu prévoir ce trou? Donc, il y a une nécessité de réaction. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une forme d'hypocrisie collective. Quand vous voyez les leçons données par les uns et par les autres au gouvernement, moi je veux bien que ou Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron soient responsables, j'entends bien, ils sont au pouvoir, c'est tout à fait normal. Mais quand vous voyez les Républicains donner des leçons d'économie alors qu'ils ont protesté à chaque fois et demandé des dépenses supplémentaires et qui sont censés représenter la rigueur budgétaire, et que toute la gauche se lève unie pour dire ce n'est pas bien, alors que toujours ils ont protesté lorsqu'on a arrêté la fin du bouclier tarifaire sur l'énergie, etc. Bon, c'est une hypocrisie collective.
Ce qui se passe à Bercy correspond, et depuis des années, à la définition de l'inspection des finances par Paul Morand. Tous les chiffres sont exacts et le résultat faux.
On aurait eu peut-être une explosion sociale si on avait pratiqué la rigueur budgétaire pendant le Covid. Et peut-être que...
En fait, ce qui s'est passé pendant le Covid...
Vous avez raison, en ce sens qu'il y a une sorte de keynésianisme, mais qui passerait par l'emploi, par le plein emploi et par le ruissellement, en effet. Je crois que c'était la
vision
heureuse.
Ça a très bien marché au début. Le problème du Covid, c'est que quand on a fait le quoi qu'il en coûte, on n'a jamais expliqué aux Français qu'il faudrait après payer le quoi qu'il en coûte. Et en plus, on a poursuivi les dépenses ensuite, ce que d'autres pays, justement, n'ont pas fait après nous. Et donc, il n'y a pas eu la pédagogie du quoi qu'il en coûte. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des élections présidentielles. Et que tout le monde voyait les inconvénients politiques.
Et la guerre en Ukraine aussi, qui a escamoté la campagne présidentielle et peut-être escamoté un débat de fond sur les finances publiques ou sur l'assurance chômage ou
problème,
sur tout le reste.
C'est un problème d'hydraulique financière, ça ruisselle mal.
Ça ruisselle mal. Alors, on termine avec les questions éducatives, avec d'un côté ce que nous racontait Hervé Gattegno à l'instant dans la revue de presse, la démission du proviseur de l'établissement Ravel, victime de pressions, de menaces. Ces chiffres ahurissants sur les attaques de profs, 900 par an, sur les menaces, des milliers par an. Alors, je ne vais pas faire un parallèle avec Sciences Po, mais vous vouliez parler de Sciences Po avec les dérives islamo-gauchistes de certaines associations et syndicats d'étudiants. Quand même, un proviseur bien coté, qui tient bien son établissement, qui est forcé de démissionner, Marc Lambron, vous, homme de connaissance, vous, normalien, et c'est pareil pour Routel-Krieff, ça doit vous consterner.
Écoutez, ça me fait penser à ce qu'on disait, enfin, la façon dont on baptisait les instituteurs autrefois, les hussards noirs de la Troisième République. Eh bien, les hussards, ils avaient des sabres. Et cette nuance belliqueuse, conquérante à l'époque, eh bien, peut-être faut-il réarmer d'une certaine manière l'éducation nationale. Je dirais pas concrètement, mais il y a quelque chose d'un réarmement moral et surtout du soutien qui est quand même requis et qui serait minimal de la part de nos concitoyens.
Non, mais c'est un échec terrible, c'est macabre complètement. Et je comprends parfaitement que quelqu'un ait pu craquer et le proviseur a peut-être eu des difficultés, mais qu'on puisse faire les gros yeux. C'est une comparaison, une ellipse un peu osée et peut-être assez démagogique, mais quand même, qu'on puisse faire les gros yeux aux Russes en disant on est sur le... Vous voyez, on va envoyer des troupes au sol, mais pardon qu'on n'arrive pas à protéger un proviseur en France dans son lycée, ça me pose vraiment problème.
Ah, des troupes au sol dans les
non,
lycées.
Mais vous voyez le discours viriliste et en vérité sur une question très concrète et tout à fait proche, c'est terrible.
Merci à tous les deux, Marc et Ruth. On va se quitter avec Rostropovitch, génial violoncelliste qui est né un 27 mars 1927. L'occasion de l'entendre et de vous dire à la semaine prochaine à tous les deux. Marc, on vous retrouve demain à 7h20 pour votre rendez-vous avec la langue française. Merci.